Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, encore un sujet passionnant. Nous sommes toujours dans l'étude des preuves de l'existence de Dieu. Bien sûr, c'est évident que Dieu existe, mais ces preuves, elles ont l'avantage, bon, d'abord, d'apporter des arguments lorsque vous discutez avec des gens qui n'y croient pas. Surtout, elles nous font découvrir à chaque fois une de des perfections de Dieu, desquelles nous profitons, de qui nous dépendons, ces perfections dont nous dépendons. Et elles sont très concrètes parce qu'elles nous donnent un éclairage très élevé sur la vie chrétienne et même sur la vie humaine. Aujourd'hui, où nous sommes arrivés à une lutte, on peut dire, radicale entre les ennemis de Dieu et les amis de Dieu, l'étude de ces arguments apportés par saint Thomas d'Aquin est tout à fait nécessaire pour vous donner la hauteur de vue dont vous avez besoin. Je vous rappelle que les prêtres missionnaires en Chine, lorsqu'ils ont fait le bilan de leur apostolat après leur éviction par le communisme, ont conclu, si nous avons commis une erreur, c'est de ne pas avoir enseigné la métaphysique, c'est-à-dire ces vérités très simples que je vous enseigne, de ne pas les avoir enseignées à nos fidèles. Trois parties dans ce sermon. Tout d'abord, l'enseignement de saint Thomas d'Aquin. Deuxièmement, l'objection des modernes et des modernistes. Et troisièmement, les conséquences pour notre vie morale, notre vie chrétienne, notre vie humaine. Vous verrez que les objections des modernes ne sont pas simplement des objections intellectuelles comme on les étudierait en classe ou à l'université. Ce sont vraiment des choses que vous entendez constamment et qui sont le fondement de l'orgueil moderne. Premièrement, l'enseignement de saint Thomas d'Aquin. La preuve énoncée par saint Thomas se résume ainsi. Tout ce qui est contingent ne peut exister qu'en dépendance d'un être nécessaire. Ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer les termes et ça va devenir beaucoup plus simple. Nécessairement, ça va devenir simple, puisque les modernes s'attaquent à ces vérités-là, ils ne s'attaqueraient pas à des vérités que les gens ne comprendraient pas. On pourrait transposer la formulation de saint Thomas ainsi, « Tout ce qui est fragile ne peut exister qu'en dépendance d'un être fort. » Or, continue saint Thomas, il n'y a qu'un seul être absolument nécessaire, ou absolument fort, si vous voulez, c'est le premier de tous, c'est Dieu. Comment saint Thomas arrive-t-il à cette conclusion? Il commence par dire, il est évident que nous sommes entourés par des choses contingentes, c'est-à-dire qui pourraient ne pas être, qui pourraient ne pas exister. Ce qui naît, ce qui meurt, ce qui se corrompt, ce qui est fragile. Nous sommes évidemment dans une vie, dans un monde qui est plein de contingences. Nous pouvons dire que tout autour de nous, tout est contingent, c'est-à-dire que tout est fragile, tout commence, tout finit, tout se corrompt, etc. Or, tout contingent dépend d'un être nécessaire, c'est-à-dire que toute faiblesse dépend d'une force. Cette troisième preuve apportée par saint Thomas d'Aquin sur l'existence de Dieu, elle nous fait monter beaucoup plus loin, elle nous fait aller plus loin que les deux premières preuves. Elle nous montre qu'un être contingent, par sa contingence même, c'est-à-dire par le fait qu'il est fragile, qu'il commence, qu'il finit, etc., il fait la preuve qu'il ne peut pas avoir en soi-même la raison de son existence. C'est là le nœud de la preuve, et c'est là où la preuve est très intéressante. C'est qu'elle nous montre que tous les êtres contingents, or nous allons voir que c'est tous les êtres sauf Dieu, tout est contingent, puisque tout est créé, tout ce qui est créé est contingent. Et tous les êtres contingents sont donc dans la dépendance d'un autre. Ils ne sont pas l'ens ace, l'être qui existe par soi, comme Dieu, l'être nécessaire, ils sont des êtres qui existent par un autre, pas seulement à cause d'un autre, mais par un autre. Et nous avons vu dans la première preuve qu'ils viennent à l'existence par Dieu qui les fait venir à l'existence. Nous avons vu dans la deuxième preuve qu'ils sont maintenus dans l'existence par Dieu qui les maintient dans l'existence. Et nous voyons maintenant qu'ils sont que leur définition même est de dépendre de Dieu, et que la définition de Dieu est de ne dépendre de personne. Pourquoi l'être contingent fait-il la preuve par sa contingence qu'il y a nécessairement un être nécessaire? Parce qu'il pourrait ne pas exister, ce n'est pas dans sa nature qu'il trouve son existence. Pourquoi un chat existe? C'est pas parce qu'il est chat. Il est chat parce qu'il est chat. Il a la nature de chat parce que c'est un chat. Un chat miaule et tout ce que vous voulez. Mais il pourrait ne pas exister. Et pourquoi un homme existe? Ben pas parce qu'il est homme, parce que sinon tout homme existerait nécessairement. Et on ne pourrait pas concevoir un homme qui n'existe pas si le fait d'être homme incluait nécessairement l'existence. Or, il est manifeste que ce n'est pas le cas, puisque les hommes naissent, meurent, etc. Donc, c'est bien qu'ils reçoivent quelque chose. Or, l'existence, c'est quand même ce qui fait que nous existons, hein. C'est pas le tout d'être homme. Encore faut-il exister. Cette existence qui est reçue, elle vient nécessairement de Dieu. Alors on pourrait dire, il reçoit, il dépend de quelqu'un, surtout si je vous dis qu'un être faible dépend d'un être fort. Vous allez me dire, l'être fort n'est pas nécessairement Dieu. Seulement cet être fort, il a encore des faiblesses, parce qu'il est contingent lui aussi, et on ne peut pas remonter à l'infini. Parce que tant qu'on remonte, on n'a toujours rien expliqué. Si on n'a rien expliqué, il n'y a rien en dessous. Et donc il faut arriver à un être fort, qui est fort par lui-même, dont la raison d'être est d'être fort, c'est-à-dire d'exister, hein. Je dis fort pour que vous compreniez, qui est fort par lui-même, qui n'a pas besoin d'explication à sa force, c'est-à-dire qui n'a pas besoin d'explication à sa perfection, qui n'a pas besoin d'explication à son éternité. L'important dans la démonstration de saint Thomas d'Aquin n'est pas de voir qu'il y a tout en haut un être non contingent, c'est-à-dire nécessaire, c'est-à-dire parfait, mais de voir que tout dépend de lui. Et pour comprendre cela, il faut comprendre qu'un être nécessaire, ce n'est pas simplement une dénomination logique. Dieu n'est pas nécessaire comme il est nécessaire d'avoir de l'oxygène et de l'hydrogène pour faire de l'eau. C'est pas ça. Quand on dit qu'il est l'être nécessaire, c'est-à-dire que toute l'explication de son existence se trouve en lui. Toute l'explication de l'eau ne se trouve pas dans l'hydrogène et l'oxygène. Tandis que toute l'explication de Dieu se trouve en Dieu. C'est d'ailleurs pourquoi il est si difficile de le connaître, parce que justement, tout est en lui. Alors quand on a compris que cela signifie que l'être nécessaire, Dieu, est un être plein, parfait, éternel, alors on comprend mieux que non seulement il faut qu'il en existe un, mais qu'en plus, il s'intéresse à toute la création, que c'est lui qui fait que la création, malgré sa faiblesse, malgré sa contingence, malgré le fait que l'existence est quand même une chose fragile, puisqu'elle ne l'avait pas et qu'elle peut la perdre. Eh bien, malgré ça, elle continue à exister. Deuxième partie, les objections des modernes. ça va éclairer évidemment notre propos. Vous remarquerez que dans les objections, elles ont toutes pour but de les affranchir de la dépendance de Dieu. Ce ne sont pas des objections honnêtes. Première objection. Cet être nécessaire serait le monde lui-même, comme un manège dans lequel tout tourne, mais le manège est permanent. Vous voyez, tout tournerait dans le monde, mais ce qui serait nécessaire, ce qui ferait tourner le monde, ça serait le monde lui-même qui serait nécessaire. Oui. La réponse. Une somme d'êtres imparfaits ne fait pas un être parfait. Une somme d'imbéciles ne fait pas un être intelligent. Et ce monde n'aurait pas en soi la raison de son être. Bien pire, il serait toujours à la recherche de sa perfection en tournant continuellement. Et pourquoi ce monde tournerait-il? Si vous avez Dieu qui est à l'extérieur du monde, très bien, il fait tourner le monde, il le fait comme il veut. Bien. Parce que, ben évidemment, il est le seul être éternel, donc il ne peut pas d'ailleurs créer un être éternel, ce serait lui. Donc il crée un monde qui tourne. Bien. Mais si Dieu c'était le monde, si je puis dire, si l'être nécessaire c'était le monde, alors pourquoi le monde se ferait-il tourner lui-même? Ça n'aurait pas de sens. Ça veut dire qu'il serait toujours à la recherche d'une perfection qu'il ne posséderait pas et après laquelle il courrait. Et vous voyez, mes bien chers frères, que ça, c'est la conception inavouée peut-être, mais réelle du monde moderne. On est toujours à la recherche du progrès. Je me rappelle, le camarade d'un ami avait voulu me démontrer que le progrès économique était perpétuel et puis qu'à chaque fois qu'on découvrait quelque chose, ça laissait du temps, des possibilités, de l'argent, que sais-je, pour découvrir d'autres choses et qu'ainsi on améliorerait continuellement le niveau de vie. J'avais été très intéressé de passer quelques jours chez cet ami parce que justement, ça m'avait permis de comparer, voyez, d'entendre des objections que je n'entendais pas tellement d'habitude. Je reviens à la maison, et puis j'avais été un petit peu impressionné par ça, et j'en parle à mon père, qui me dit « Mon fin, écoute, tu es ridicule, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel, toute chose a une limite. » Ah bah oui, c'est vrai, bien sûr. Eh bien, vous voyez, si je vous raconte ça, c'est pas à cause de la réponse de mon père, mais c'est parce que cette objection est très courante. Autre objection. Cet être nécessaire serait la loi qui meut le monde, pas le manège, mais ce qui fait tourner le manège. Alors il y aurait quelque chose qui fait tourner le manège et qui, là, serait nécessaire. Alors réponse, si c'était cela, la loi du monde serait fragile comme lui. Et puis il faudrait une loi supérieure au-dessus du monde. Or, cette loi supérieure, elle existe, et elle est même bien mieux qu'une loi. Elle est Dieu qui donne leur loi à toute chose. Alors ça, c'est une objection peut-être encore plus fréquente, vous voyez. Il y aurait une espèce de dynamisme interne à la création qui expliquerait toute la création. Alors, il faut remarquer que ces objections ne sortent pas du monde matériel. Elle ne se hausse pas au monde spirituel, celui de la pensée, celui de l'amour. Or, dans le monde spirituel, la nécessité de l'être nécessaire et éternel se fait tout autant et peut-être même plus sentir que dans le monde matériel. Comment nos amours fragiles pourraient-ils tenir sans la force de Dieu? Bien plus, comment l'amour traverserait-il les siècles s'il n'y avait pas Dieu, l'amour immuable? Qu'il y ait des lois dans le monde, c'est une évidence. Qu'il y ait des lois plus contingentes, c'est-à-dire qui passent plus, et puis d'autres plus nécessaires, c'est une évidence. Mais il n'y a aucune loi dans le monde qui explique à la fois le monde et sa loi. L'objection classique, c'est l'énergie ou la matière qui ne se perd pas, Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Bon, ça reste à prouver en plus que rien ne se perd. Mais même si c'était cela, cela prouverait que la matière se transforme en une autre matière, mais ça ne prouverait pas pourquoi cette matière se transforme, ça ne prouverait pas pourquoi l'hydrogène et l'oxygène font de l'eau, ça ne prouverait pas pourquoi le monde est monde. Dernière objection, vous dites que tout vient de Dieu, nous affirmons, nous, que tout vient du néant. C'est l'évolution créatrice, Théilliard de Chardin notamment. Réponse. Il pourrait ne pas y avoir de Dieu, à ce moment-là, il n'y aurait rien. Mais dire que quelque chose puisse sortir du néant, c'est une contradiction en soi. Seule l'imagination peut accoler les deux mots évolution et créatrice. Ça, c'est l'objection qu'on trouve dans l'étoile contre la croix. Votre Dieu, dit l'animateur marxiste, votre Dieu est un mystère que vous ne pouvez pas me prouver. Moi, le néant, source de toute chose, mystère également que je ne peux pas vous prouver. Alors, la réponse est très simple. Je ne peux pas vous prouver peut-être mon mystère, encore que je vais le faire par l'épreuve de l'existence de Dieu, mais en tout cas, il est logique. Tandis que vous, votre mystère, vous risquez pas de le prouver parce qu'il est illogique, c'est-à-dire qu'il est contradictoire, il est impossible. Rien ne peut sortir du néant, ce n'est pas possible. Eh bien, cette dernière objection est celle des modernistes, selon qui la religion et même Dieu viennent d'un besoin de l'homme. La religion serait créée par l'homme en réponse à un besoin intérieur, c'est-à-dire à une loi intérieure qui l'oblige à aller plus haut que lui-même. Et Dieu serait le produit de cette création. Théilliard de Chardin, l'évolution créatrice, alors lui il ajoutait que comme l'évolution est créatrice, elle va vers l'infini. Alors là, le monde est infini. Encore Jean-Paul II, dans sa lettre sur l'entrée dans le troisième millénaire, la vie est un défi. Le Christ s'est jeté dans le vide. Et sa foi consistait à être persuadé que de ce vide naîtrait quelque chose. Enfin, qu'il y trouverait quelque chose, mais enfin, il ne le connaissait pas. Et Dieu ne connaît pas la loi du monde, c'est pas ce qu'il y a dans le monde, c'est le monde qui répond à nos besoins. Et pour Jean-Paul II, le mystère central de la vie du Christ, ce n'est pas la rédemption sur la croix, comme pour nous, mais l'agonie durant laquelle le Christ se trouve face au vide, face à un défi. Et pour lui, c'est cela l'amour du Père, c'est d'accepter le défi qui n'est pas raisonnable. Troisième partie de ce sermon, les conséquences morales. Première conséquence, toute qualité réelle, mais fragile, en nous, vient d'une qualité éternelle en Dieu. Alors je n'insisterai pas, car la preuve suivante, la quatrième, que la plus belle, j'attends avec impatience de vous traiter la quatrième preuve, et je me demande si je ne ferai pas deux sermons dessus. Enfin, nous verrons. C'est la plus belle, c'est celle qui m'enthousiasme. Donc, j'insiste pas parce que la quatrième le mettra encore mieux en évidence. Autre conséquence morale, le temps dépend de l'éternité. Mais oui, puisque le temps, c'est le contingent par définition. C'est la mesure de l'avant et de l'après, c'est ça le temps. Et l'éternité crée le temps. L'application, le Christ homme dans le temps, Dieu dans l'éternité, parce qu'il est éternel, il ne change pas. Christus eri hodie et in saecula, le Christ, hier, aujourd'hui et dans les siècles. Épître aux Hébreux. Ce que Mgr Lefebvre citait souvent, puisque le Christ ne change pas, eh bien, la religion ne change pas. Les hommes qui pratiquent la religion changent. Enfin, attention. Un homme reste toujours un homme, et tous les hommes sont des hommes. Ils changent en ce sens qu'ils sont contingents, après un homme, il y en a un autre. Après une ville, il y en a une autre. Après une société, il y en a une autre. Bien, tout ça, ça change. Mais la religion ne change pas, justement. Pourquoi ? Parce que le Christ étant éternel, le rapport au Christ est éternel. D'où saint Vincent de Lérin, que je vous ai cité au tout début de ses sermons, ce qui a été cru toujours, partout et par tous, universellement donc, voilà le critère de la vérité de la foi. On voit bien que les affirmations contingentes sont en dépendance de la foi nécessaire, de la vérité de Dieu nécessaire, c'est-à-dire qui est ce qu'elle est et qui ne peut pas changer. Autre application, l'importance des principes. On voit souvent dans les principes quelque chose d'artificiel, qui est nécessaire, mais dont il faut savoir s'affranchir, vous voyez. Un principe, il en faut, mais à condition de ne pas trop en dépendre. Et c'est l'inverse. Le principe est au contraire ce dont tout le reste dépend. C'est la définition du principe. Le principe, c'est justement l'expression du rapport entre la chose contingente, qui dépend, avec l'être, qui ne dépend pas. Donc, il ne s'agit pas dans la vie de savoir s'écarter des principes, mais de savoir comment les principes s'appliquent. Il est vrai que tous les principes n'ont pas la même valeur, mais justement, ils dépendent tous de principes supérieurs, et puis on arrive en définitive au principe des principes, in principio erat verbum, au principe était le Verbe de Dieu, la deuxième personne de la Sainte Trinité, et c'est ce que saint Thomas vous a démontré. Alors par conséquent, les personnes souples ne sont pas des personnes sans principe ou qui savent s'affranchir des principes, ce sont au contraire les personnes qui connaissent les principes et rapportent tout au principe supérieur, ne prennent pas un principe inférieur pour un principe supérieur, mais rapportent tout au principe supérieur et savent donc comment les principes inférieurs s'appliquent. Et comment le principe supérieur permet des exceptions aux principes inférieurs, puisque lui tient tout dans sa main. À l'inverse, les personnes qui n'ont pas de principe ne sont pas des personnes souples, ce sont des personnes dures, tyranniques. Pourquoi ? Parce que comment voulez-vous qu'elles imposent quelque chose si ça ne dépend pas des principes ? Ça dépend de quoi ? Ça dépend d'elles, de leurs caprices, de leurs amis, de leurs maîtres, de la mode, allez savoir, ou de leur intérêt. Vous voyez que cette preuve, cette troisième preuve de saint Thomas, est très intéressante. Ça demande évidemment à être un peu réfléchi, un petit peu médité. J'aimerais bien d'ailleurs avoir vos retours sur les sermons, que vous me posiez des questions, que vous me disiez ce que vous avez compris, ce que vous n'avez pas compris, etc. J'aimerais bien. N'hésitez pas. Hein. Le fondement de la tradition inébranlable de l'Église et de l'infaillibilité de l'Église et de la permanence de l'Église, le fondement, c'est dans la permanence de Dieu. Voilà pourquoi nous n'avons pas à nous inquiéter des vicissitudes présentes, et toutes les vicissitudes, toutes les persécutions, tous les échecs. Tout cela est tenu par Dieu éternel, permanent, immuable. Et donc, il ne faut pas juger de la vérité éternelle en fonction des épreuves dans lesquelles nous sommes, il faut juger des épreuves dans lesquelles nous sommes en fonction de la vérité éternelle. Alors là, elles deviennent toutes petites et nous sommes très rassurés d'être dans la main de Dieu. C'est ce que je vous souhaite et je prie pour cela au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.